Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes.
Au menu aujourd'hui, sur le tournage des Sopranos. Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. On est aux États-Unis. On est sur la côte est, dans la région de New York. Il fait beau et chaud, très chaud, parce qu'on est fin août. La semaine dernière, les Sopranos, à savoir Edie Falco, Dominic Chianis, Michael Imperioli, James Gandolfini et le créateur de la série David Chase, étaient venus déjeuner avec vous. Vous vous souvenez ? Vous avez raconté à quel point la série avait connu un succès absolument fulgurant et une reconnaissance critique unanime. À quel point elle avait été initiatrice de toute une ligne éditoriale qui se poursuit toujours, encore de nos jours, avec la création d'œuvres originales, spécifiques et exigeantes pour des diffuseurs premium payants, donc avec un public plus ciblé. À quel point sa trame, sa narration, son histoire et ses personnages bouleversaient la production télé habituelle et l'entraînaient dans une nouvelle ère. Et à quel point les Sopranos ne se prennent pas la tête et œuvrent dans une liberté de ton assez inédite, ce qui donne donc lieu à une série hors du commun. Alors, on va leur envoyer l'appareil, à notre tour de leur rendre visite sur l'invitation de David.
And action.
En ce mois d'août, donc, de l'année 2000, nous nous trouvons à North Caldwell, là où se trouve la maison des Sopranos. Enfin, l'extérieur de la maison de Tony et Carmela Soprano est le fameux perron où Tony descend chaque matin dans son peignoir blanc, le regard hagard, la mine lasse, pour aller ramasser son journal. À nos côtés, il y a Philippe Appietto, le réalisateur de ce documentaire, qui est déjà metteur en scène de l'émission qu'il les avait reçue en France il y a quelques mois et filmée dans un grand restaurant italien. Et là, James Gandolfini, eh ben, il vient à notre rencontre. Ah ouais, bah James vous demande où vous étiez parce que eux, ils sont sur le pont depuis bien plus tôt que nous. Grosso modo, 4-5 heures du matin, quoi, à peu près. Le metteur en scène de cet épisode, le premier épisode de la saison 3 des Sopranos, Mr. Ruggiero's Neighborhood, c'est Alan Coulter. Alan Coulter est un réalisateur remarquable et très respecté. Il a travaillé sur X-Files et Millennium, et après Sopranos, il tournera de nombreux épisodes de Boardwalk Empire avec le showrunner Terrence Winter, un showrunner qui est déjà scénariste et producteur sur Les Sopranos. On va demander à Alan des précisions sur la séquence.
C'est une des cinq descentes de Tony le matin pour récupérer son journal. Chacune est comme un morceau de musique, avec une légère variation, une petite différence. Et dans ce cas, chaque descente dans le script implique la façon dont je vais la filmer.
Et je suppose que vous demandez à James de réagir d'une façon légèrement différente aussi.
Assez bizarrement, dans ce cas précis, c'est la même chose à chaque fois. La blague est que Tony descend chercher son journal. Chaque jour est le même pour lui. Et c'est vraiment la manière de filmer qui fait la différence. Parce que lui, il va faire des choses différentes aussi, mais chaque matin. Pour lui, chaque jour est le même. Il a un petit moment où il est soupçonneux si on ne l'épie pas. Mais il s'en va.
L'épisode est dans une tonalité assez différente du reste de la série. On est quasiment dans une comédie. La majorité des scènes sont du point de vue du FBI. FBI qui traque la famille Soprano, l'espionne, s'organise, tente de poser un micro dans la cave de leur maison.
C'est très différent parce que l'histoire est menée par les personnages et non pas par une trame. Ce qui est plus la norme en termes de séries télé. Les épisodes sont généralement bâtis autour de la trame pour arriver à établir un point ou donner une leçon. Là, on est plus comme dans un film. C'est différent car ça repose sur les personnages qui sont incroyablement complexes. Il n'y a pas d'histoire précise qui soit close de façon claire et nette. Pour moi, C'est génial, car je ne suis pas tenu à un scénario où je dois être certain que je montre bien tout le monde qui parle ou que je dois insister sur un élément de l'histoire. L'histoire est profondément ancrée dans les personnages.
Roll it, please. Roll it.
Sur le tournage, on va discuter aussi un peu avec Terrence Winter, donc un des producteurs scénaristes de la série. Terrence Winter est un des piliers des Sopranos. Il va, des années plus tard, concevoir des séries comme Boardwalk Empire et Vinyl. Alors dites-nous, quelle est la prochaine scène qui va être tournée ? La prochaine scène que l'on va faire, c'est Tony et Furio, interprété par Federico Castelluccio, qui quittent la maison de bon matin. Et dans une partie de cet épisode, ils sont surveillés par le FBI, avec ses agents qui tentent de rester incognito dans la rue ou dans une camionnette. Ici, c'est un chasseur de moustiques. Il se dissimule dans la camionnette d'un chasseur de moustiques. Donc Tony et Furio sortent de la voie de la maison, croisent les gens du FBI qui tentent d'être discrets, et Tony leur fait signe car il sait qu'il est surveillé. Il voit les mecs, il s'approche et carrément leur dit « Bon, salut et bonne journée, hein. Je vais revenir, pas la peine de me suivre. » Alors là, la voiture descend l'allée. Et Furio amène la voiture juste à côté de la caméra, censée être la camionnette des agents du FBI.
Look, I'll save you some gas. I'm just going down to the stationery store. Then I'll be right back. You don't have to follow me like yesterday.
C'est assez inhabituel d'avoir un des scénaristes en permanence sur le tournage.
Oui,
effectivement. C'est ce qui différencie cette série des autres. Il y a une excellente relation de travail entre le réalisateur et le scénariste. Tous nos scénaristes sont aussi des producteurs. En télé, beaucoup des gens qui ont le titre de producteur, mais quand tu es scénariste, cela signifie que tu fais la jonction avec le réalisateur pour être certain que ce qui est écrit soit retranscrit dans le film. Ah, ben ça y est, la scène est en boîte, on va bavarder un peu avec l'ami James. Cela fait 3 ans que vous jouez le rôle de Tony Soprano. Comment pourriez-vous résumer le personnage ? Est-ce que vous le voyez comme un mafieux ou comme un père de famille ?
Ni l'un ni l'autre. En ce qui concerne la mafia, c'est ce qu'il a fait toute sa vie. Il y a pas mal d'épisodes qui montrent que c'est ce que faisait son père, son oncle. Qu'il ne connaît que ça. Et en ce qui concerne sa famille, c'est un type tout ce qu'il y a de plus normal. Il a des soucis avec sa fille, avec son fils et avec sa femme, comme le serait n'importe quel père de famille. Le personnage a changé un peu. Il est devenu un peu plus réfléchi, un peu moins belliqueux. Je pense que la thérapie lui a réussi. Ça le rend plus calme. Enfin, pour l'instant. Je ne sais pas ce qu'il me prépare dans le futur.
Comment pensez-vous que les gens réagissent au fait que vous êtes un méchant, mais qui est plutôt gentil ?
Je ne pense pas qu'il soit l'un ou l'autre, parce que c'est très bien écrit. Le personnage n'est pas seulement intéressant, il a toute une panoplie de problèmes qui rendent sa vie intéressante. Je ne le vois pas comme gentil ou méchant. S'il était un psychopathe, s'il prenait plaisir à faire du mal aux autres, je crois que personne ne regarderait la série. Il y a toujours une raison à ses actions. Enfin, à ses yeux, en tout cas.
Mais qu'est-ce que c'est que cette bonne quinzaine de semi-remorques dans l'allée qui mène au perron, là ? Enfin, c'est à perte de vue ! Bah en fait, le matériel logistique pour cette simple séquence en extérieur est impressionnant. Totalement démesuré, faramineux. Des loges des comédiens aux toilettes sur roues, bah tout est là. Tel un vrai village portatif et mobile. Tout pour le maquillage, l'éclairage, le visionnage, au bout de kilomètres de câbles. Tout ça pour 70 à 80 personnes, plus les acteurs et les actrices. Et il y a en plus 4 ou 5 minivans pour les transporter. Et là, sur le chemin, eh ben on croise Eddie Falco. Ça fait maintenant 2 ans. Ce sera la 3e où vous êtes Carmela. En quoi le personnage a évolué ? Maintenant, vous êtes vraiment Carmela ?
In which way? Now you're really Carmela now.
Right. Well, it's a little early.
Oui, mais c'est un peu trop tôt pour dire comment ça va évoluer. Moi, je suis dans le tournage.
While I'm doing the show, I
je ne peux pas trop voir ce qu'elle va devenir. Je suis trop dedans. Je n'ai pas de recul. Je sais par contre que chaque année, quand je commence, et j'en ai parlé à James, et c'est pareil, quand on redémarre, on est convaincu qu'on sera incapable de se souvenir comment on fait ces personnages. Et cette saison, dès le premier jour, c'était plus simple. Je me suis tout de suite souvenu qui elle était. Comment elle réagit? Quel type de relation elle a avec les gens? Plus je le fais depuis longtemps, plus visiblement c'est simple de s'en souvenir.
No. No, it's from the top.
Yeah.
There's several lines.
It's got several lines. Still nothing out of the ordinary. Is the kid home from school? What the hell?
And any points?
Pendant le tournage, on ne peut pas s'empêcher de voir un revenant. Enfin, je veux dire une personne qui s'est fait buter par les Sopranos. Son personnage, c'était Jimmy Altieri. Et c'était à la fin de la première saison. Et pourtant, ben, il est encore sur le tournage, mais pas dans le même rôle. Mais vous avez été éliminé dans la série. Et vous êtes encore là.
Oui, je travaille ici. Je suis accessoiriste. C'est mon métier. Jouer, c'est mon second travail. Pardon.
Et ouais, c'est l'accessoiriste de la série. Il a ensuite continué de jouer dans des séries comme New York 911 ou The Night Of. Il a pour nom Joe Badalucco. Et son frère Michael était un des acteurs principaux de la série The Practice. C'est vraiment étonnant de suivre un tournage, non pas pour connaître les scènes ou l'histoire, parce que ça c'est très difficile à cerner, mais surtout pour ressentir l'ambiance qui règne, qui est souvent assez symptomatique de l'ambiance que fait régner le responsable de la série. On va en discuter avec Eddie et avec James. Allez, venez, suivez-moi. Vous êtes vraiment tous ensemble. À Paris, on s'était déjà rendu compte. Mais ici, en tournage, il y a quand même une ambiance très familiale. Et ça, c'est pas habituel. Je savais pas. Je peux pas trop comparer parce que j'ai pas été trop souvent personnage régulier dans une série télé. Je pensais que c'était toujours comme ça. Que tout le monde s'apprécie, se respecte. Et je parle à tous ceux qui ont bossé sur d'autres séries, ils me disent non, c'est très inhabituel. À quel point on s'entend bien, on se respecte, qu'il y a un bon environnement. C'est vraiment la cerise sur le gâteau. Moi, j'aime travailler sur cette série. On a vraiment beaucoup de chance. Tous ces éléments, le New Jersey, vous, David, est-ce la raison pour laquelle la série est aussi différente de ce que l'on voit d'habitude à la télévision?
Je pense que la grosse différence, c'est que nous sommes très irrévérencieux et insolents. Et j'aime ça. Il faut se méfier de ne pas être insolent uniquement pour l'être. Il y a vraiment un énorme cœur à l'origine de cette série. J'ai lu que quelqu'un de The West Wing est allé à la Maison Blanche passer du temps avec celui dont il joue le rôle et est allé à la Convention démocrate. Je ne pense pas que ce soit quelque chose que nous devrions faire. Nous ne sommes pas proches de la société conventionnelle, donc nous n'allons pas faire ça. Nous avons cette « fuck you » attitude qui me plaît beaucoup.
Which I like.
Are you leaving? You guys done?
I'll see you tomorrow, I think.
Bonjour tout le monde. Bienvenue au Pork Store.
Ah oui, c'est Yves Fletcher, le producteur de Destination Série sur Canal Jimmy et de ce grand documentaire, qui est lui aussi sur le tournage et qui nous accueille sur notre lieu de deuxième jour de tournage. C'est le Pork Store. Nous sommes à Kearney, dans le New Jersey. C'est ici, dans la rue principale, que se trouve le Pork Store de Patriali, avec le cochon pendu au-dessus de l'entrée. C'est l'endroit où les mafiosi se retrouvent pour déjeuner, pour siroter un verre à la terrasse et pour faire leurs affaires. En réalité, c'est une fausse boucherie, mais c'est un vrai décor. À l'intérieur du magasin, ne comptez pas trouver les steaks ou acheter du jambon. Tout est faux. Plutôt qu'utiliser la façade d'une vraie boutique et de tourner les scènes d'intérieur en studio, on a créé une fausse boutique dans une des rues principales de cette petite ville de Kearney. Seul inconvénient, Faut bien veiller à décrocher le cochon du toit, car des fans de la série pourraient avoir envie de l'emporter en souvenir. Ah, David Chase est venu lui aussi sur le tournage aujourd'hui. On va donc lui demander ce que c'est que cette idée d'avoir un décor réel dans une rue, donc avec un vrai bâtiment, de vrais endroits pour filmer à l'intérieur. Vous avez recréé tout le lieu dans une rue. C'est assez inhabituel, non ?
En fait, on avait déjà une charcuterie dans le pilote. Mais il y a eu les voisins. On payait le propriétaire du pork store, mais ses voisins ont commencé à vouloir de l'argent eux aussi. Et puis il y avait des soucis dans la rue. Donc on a décidé de le faire ici, de construire cela et de pouvoir tout contrôler. Et puis dans le vrai pork store, il fallait que l'on arrête le commerce le temps du tournage. Ici, pas besoin. Et on a un parking en plus.
Mais pourquoi le faire dans une rue plutôt que de le construire dans les studios de Silver Cup, par exemple ?
On filme plein de choses dans le New Jersey. On voudrait donc utiliser ce lieu comme... Si on a une journée avec un plan extérieur, puis en intérieur, on peut faire la demi-journée ici, dans ce qui est un studio, et aussi aller dans le coin, plutôt que d'être dans le Queens et ensuite de retourner dans le New Jersey. Pour un simple plan, là, on peut aller dans le quartier.
Une fois que les plans depuis le parking sont en boîte, on passe à l'intérieur. Dans l'arrière-boutique de la boucherie, enfin, dans le décor de l'arrière-boutique, n'oubliez pas, c'est un décor, c'est pas une vraie boucherie, vous avez tous les personnages qui sont réunis autour de la table, ils sont en train de manger. Il y a Christopher, Silvio, Furio, Patsy... Alors, quand vous verrez l'épisode, vous verrez, hein, la scène est homérique. Polly raconte comment, à son avis, les bactéries passent du sol des toilettes publiques aux lacets des chaussures jusqu'aux mains des visiteurs. Et tout ça tout en préparant les pâtes. Voilà, c'est super.
Oh, shut the fuck up!
Pour l'équipe de tournage des Sopranos, le problème de ces prises nombreuses selon des axes multiples devient très épineux quand il s'agit d'une scène traditionnelle, les mafiosi réunis autour d'un plat de pasta. Il peut alors y avoir jusqu'à 8 ou 9 personnages qui sont attablés, qui échangent des commentaires, qui interagissent, tout en engloutissant des kilos de nourriture. Ici, 2 caméras sont nécessaires, sinon ben, la journée n'y suffirait pas. Elles permettront de diminuer de moitié le temps de chaque mise en place et de capter en gros plan les réactions de 2 personnages à la fois. Et le réalisateur, d'ailleurs, Alan Coutler, va nous confirmer ça. Alan, ça semble aujourd'hui bien plus long à préparer qu'hier en extérieur. Ça semble bien plus compliqué, non ?
Dans ces scènes de dialogue, avec toute l'équipe réunie, il faut voir chacun parler. Car les dialogues sont très importants. Toutes les relations entre les personnages qui se dessinent à l'intérieur même des dialogues sont très importantes aussi. Les scènes que vous avez vues hier sont fluides et amènent à un plan statique et à toute la famille réunie. Puis on passe aux gens du FBI. Puis on repart vers l'histoire avec une autre scène qui amène à une autre scène statique, puis à une autre avec le FBI. Ces scènes sont très compliquées à mettre au point, car il y a énormément de personnages avec beaucoup de choses qui se déroulent simultanément. C'est un puzzle géométrique très compliqué. Les gars se regardent les uns les autres, donc il faut que je les cadre. Mais ils se retournent et regardent aussi Tony. Donc il faut que je les filme à ce moment-là aussi. Il y a beaucoup de façons de faire, mais j'ai choisi de tourner la scène en opposant la victime que l'on regarde de haut et Tony, que l'on regarde en levant les yeux. Il y a donc ces deux pôles, Patsy et Tony. Donc c'est effectivement assez compliqué.
Vous utilisez une caméra ou deux ?
On utilise une caméra pour un plan très large, mais dès le gros plan suivant, je passe à 2 caméras qui filment simultanément. Sinon, on y serait encore dans 2 jours. Il y aura 14 plans dans cette scène. Alors que juste avant, on a tourné une petite scène en un seul plan. Quelquefois, pour un dialogue entre 3 personnes, un plan suffit. Mais là, vous devez avoir chacun des personnages. Mais même là, je ne fais pas de gros plans pour tout le monde. Sinon, j'aurais 8 plans en plus.
The soleus shoe comes in contact with urine and overflowed commodes every time you're in the...
You shut the fuck up! The bedroom.
You right about this, Hutch?
In theory.
Oh, you're not hungry? Have some Bergeau.
Après l'image, allons voir l'ingénieur du son, qui est derrière sa console portable.
So crazy here.
C'est dingue, hein?
Well, it's a lot of people.
Il y a plein de gens. Des gens qui parlent tous avec une scène qui fait 4 pages et demie. Une grande table, deux caméras qui tournent, c'est compliqué. Sur le plan général, on avait 6 micro-cravates à chef et 2 perches. J'aurais bien mis 8 micros HF parce que c'est un plan très large. Maintenant, on est dans les gros plans, mais on a 2 caméras simultanées. Une caméra sur quelqu'un, l'autre caméra sur une autre personne. Mais d'une personne, on passe à celle d'à côté. Et l'autre personne aussi, et on passera ensuite à 3 personnes. Et la scène est éclairée depuis le plafond. Donc je ne peux pas mettre des perches là où il faudrait. Donc à chaque prise, je me mélange. Ce type de scène est assez courant dans la série, mais c'est pas si simple que ça. Vous avez pas mal de dialogues.
Ouais, c'est du lourd, là. On a 5 pages de dialogue. C'est beaucoup. Pour un film de cinéma, on ne tourne que 2 ou 3 pages par jour. Et après cette scène, on a encore 3 pages à tourner. Ça va faire 8 pages pour la journée.
Et vous préférez ça, ou plutôt ce qu'on a vu hier ?
Je préfère le type de scène qu'on a tourné hier. Ils me payent une fortune pour tourner ça. Mais hier, me balader, c'était sympa.
Et en plus, là, vous mangez beaucoup.
Oui, en effet, on mange toujours, sinon ce serait ridicule. Il y a beaucoup de scènes de dîner où personne ne mange parce qu'ils ne le veulent pas. Ça fait stupide.
L'autre problème, là aussi, c'est que les comédiens mangent réellement. Encore, encore et encore et encore, prise après prise. Il faut les resservir pour que les plats soient toujours au même niveau, changer les assiettes, ne pas tomber malade d'écœurement quand ce festin a lieu vers 8h du matin. Ben, vous voyez le truc, quoi. L'accessoiriste se transforme en véritable cuisinier pour fournir des plats entiers de cannelloni à sa tablée. Comme nous, ces braves gens font la pause déjeuner à midi. Et pour bien confirmer la légende, ils ont droit à plusieurs plats cuisinés par un chef et à un nombre absolument démentiel d'entrées et de desserts. Bon allez, on va retrouver le réalisateur Alan Coulter alors qu'il discute avec le directeur de la photographie, Alix Sakharov, et tente de se dépêtrer de cette scène qui nécessite énormément de prises.
J'essaie de doubler. Après avoir fait ça, on fait un plan de coupe sur le côté gauche de la table, juste la section que je n'ai pas encore filmée.
Ok.
Juste pour ce passage-là, on aura la caméra sur Polly.
À la table, il y a Steve Van Zandt. Steve Van Zandt, il tient le rôle de Silvio Dante, le patron du strip bar, le Badabing. C'est aussi un des plus fidèles lieutenants de Tony Soprano. Van Zandt n'est pas un acteur, mais c'est surtout le guitariste du boss, Bruce Springsteen. Initialement, il était envisagé pour le rôle de Tony Soprano, mais Chez a écrit finalement un rôle rien que pour lui. J'ai revu Steve Van Zandt quelques années plus tard, Little Stevie, comme il se fait appeler en tournée. Vous avez de bons souvenirs de la série ?
Oh, yes, of course. Of course. For me, it was a birth of a whole new...
Ah ouais, bien évidemment. Pour moi, c'était le début d'une nouvelle vie. 10 ans dans cette école d'acteurs, c'est efficace.
Et avec David Chase.
David Chase et d'autres grands scénaristes. Et avec Jimmy Gandolfini. Vous savez, comme je l'ai dit de nombreuses fois, si vous faites une scène avec lui, vous en sortez meilleur acteur. Il est incroyablement talentueux. Et tout aussi important, il m'a protégé et accueilli dans cette communauté des interprètes. Je ne savais pas quelle allait être leur réaction face à moi qui venais de l'extérieur. C'était une grande interrogation pour moi. Mais il avait tellement de respect pour ce que j'avais fait dans le domaine du rock'n'roll et de la politique qu'il a été d'une grande aide et m'a beaucoup protégé. Cela m'a permis d'apprendre dans un environnement où je me sentais en sécurité.
En 2012, Steve Van Zandt entama une sorte de suite pour son personnage de Silvio avec celui de Frankie Tagliano, le gangster qui prend une nouvelle identité dans la petite ville de Norvège, Lillehammer. La série est achetée par Netflix, elle dura 3 saisons jusqu'à ce que la plateforme refuse de la renouveler car elle n'en avait pas l'exclusivité mondiale. Ah bah dis donc, vous êtes pas trop carreau, vous ? Parce que franchement, 2 journées de tournage aussi intenses que ça, c'est quand même un peu fatigant. Alors évidemment, eux tous, ils ont l'habitude, hein, quelque part, c'est leur rythme de vie. Nous, on est des visiteurs. Donc moi, je vous propose un truc. Là, après ces 2 journées particulièrement riches, on va se reposer un petit peu pour ensuite aller voir David Chase, aller dans les studios où se tourne la série, je veux dire les décors en dur. Et puis, on parlera de la suite et de la fin de la série. Tout ça, ça sera dans le prochain Previously. Allez, reposez-vous, hein. À la semaine prochaine. Comme les séries, c'est du sérieux, si vous ne savez pas quoi regarder, ou si vous voulez découvrir la pépite à ne pas rater, une seule option, le podcast Toudoum de la rédaction de Télé Loisirs, et qui, comme son nom l'indique, Toudoum fait le point sur ce qu'il faut absolument voir chaque semaine sur la plateforme Netflix. Allez-y, Toudoum, c'est un guide indispensable. Ce podcast est disponible sur Audio Now, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcasts.